Votre journal sur Europe 1, il est 5h.
Je ne sais pas si ça va être restreint à une catégorie de population, si on allait avoir une recommandation sur les prix de vente, donc savoir à quel prix on pourra les vendre. Pour le moment, on est dans le flou.
Beaucoup de questions sur les autotests de dépistage du Covid, les tout premiers vendus en France, c'est aujourd'hui. Un procès retentissant démarre ce matin, celui des 18 policiers de la BAC de Marseille, soupçonnés de rackets sur des dealers. Et puis des tags et des inscriptions qui scandalisent depuis la communauté musulmane jusqu'au gouvernement, après leur découverte sur les murs d'un centre culturel islamique à Rennes.
Les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec notre viticulteur dans le Lot-et-Garonne.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À partir de ce matin, les autotests débarquent donc en pharmacie, en petite quantité dans un premier temps, mais il y en aura beaucoup plus dans les jours à venir. Ce sont des tests dans le nez, mais moins douloureux que les tests PCR classiques que l'on connaît. Victor Delande nous explique tout.
Les autotests sont destinés à toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Vous souhaitez retrouver des proches, vous voulez savoir si vous êtes porteur du virus. L'autotest est fait pour ça, plus besoin de vous rendre dans un laboratoire. En pharmacie, on vous vendra un kit avec un écouvillon, un long coton-tige qu'il faut enfoncer à 3 cm dans les narines. Ensuite, vous mélangez dans un petit tube en plastique avec un réactif à l'intérieur. Et 10 à 15 minutes plus tard, le résultat apparaît sur une plaquette. Une barre, c'est négatif. 2 barres, c'est positif. En cas de résultat positif, il faudra impérativement le confirmer en laboratoire. Des tests donc beaucoup plus simples d'utilisation qui permettront aussi de lancer des campagnes de dépistage à plus grande échelle. Ça va être le cas notamment dans les écoles dans les prochaines semaines. Même s'ils sont un peu moins fiables que les tests PCR, plus ces autotests seront répétés dans le temps et plus ils permettront de repérer des cas qui auraient échappé au radar.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Le prix de ces autotests est encadré, un peu plus de 6 euros pour l'instant jusqu'au 15 mai. Ce sera 5,20 euros maximum ensuite et leur vente sur Internet est interdite.
L'autre nouveauté dès aujourd'hui sur le plan sanitaire, c'est la vaccination qui s'ouvre à tous les plus de 55 ans.
Oui, dès aujourd'hui avec le vaccin d'AstraZeneca en pharmacie par exemple et d'ici quelques jours avec le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson. Et puis ce lundi est aussi jour de vacances, début de la première semaine partout en France. Aux parents de s'organiser, certains avaient anticipé dès les annonces gouvernementales des mesures de restriction. Des campings ont proposé un tarif spécial télétravail, 900 euros pour passer tout le mois d'avril dans un mobilhome sur l'île de Ré par exemple. 7 familles ont répondu à l'offre. Une visite privée avec Marion Gauthier.
Profiter du silence, descendre les allées désertes du camping jusqu'au marais salant.
Moi, tous les matins, je bois mon café sur la terrasse, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve. Fabuleux.
Une petite maison de bois remplace celle du Tarn. Certains sauvent les vacances. Les voisins apaisent le télétravail en famille.
Je m'assois ici, ma femme s'assoit juste en face. Les enfants s'amusent ensemble, des fois ça nous laisse un peu tranquille.
On va aller au phare de la baleine cet après-midi.
Chez nous, on reste à rien faire, quoi. À part aller les devoirs et c'est tout.
La restriction de 10 km, facile à respecter. Ici, la plage est à 100 mètres. Les promeneurs sont rares. Presque toute l'île comme aire de jeu, rendue accessible pour 900 euros au lieu de 2500.
Si ça restait abordable pour l'île de Ré, pour un mois en tout cas, on ne retrouvera pas ça à un autre moment.
Pas sûr, le camping ne compense pas ses pertes en ouvrant, mais il fait un test.
Pourquoi pas dans l'avenir proposer des offres télétravail, notamment sur le hors-saison, puisque le télétravail va être amené à se généraliser, ça ouvre des perspectives sur l'avenir.
Si la réouverture est encore repoussée, le directeur n'exclut pas de prolonger l'offre télétravail et la parenthèse venteuse de ces 7 familles. Sur l'île de Ré, Marion Gauthier, Europe 1.
C'est sympa ce petit bruit de mouette à la fin de ce reportage. Ça nous détend tout de suite, ça nous emmène un petit peu en voyage. Cette phrase, cette question à présent, artiste. Est-ce un métier? C'est l'une des questions posées par la mairie de Bordeaux à ses administrés. Des questions sur des affiches en couleur vive dans l'espace public pour exhorter les Bordelais à répondre au questionnaire en ligne sur leurs pratiques, leur consommation d'art et de culture.
Choquante, hors sol, odieuse, la campagne de communication a fait réagir les artistes sur les réseaux sociaux. Notamment, on y reviendra avec Martin Lange tout à l'heure. Et cette campagne a surpris jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts. Laurent Petit-Girard est le compositeur et chef d'orchestre.
C'est particulièrement malvenu dans cette période, alors que ça fait maintenant un an et demi presque que tout le secteur culturel est sinistré, économiquement, mais beaucoup plus encore psychologiquement. C'est très insultant de poser la question, est-ce que c'est un métier dans la danse, dans le théâtre, dans la musique classique, etc. C'est une exigence, ce sont des professionnels de très haut niveau, ça sous-entend une maîtrise, un travail quotidien. Dans la façon dont la question est formulée, quelque part, elle implique les réponses qu'on a envie d'entendre. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Cette campagne est très blessante et je peux comprendre qu'elle ait heurté beaucoup de mes confrères et consoeurs.
Laurent Petit-Girard de l'Académie des Beaux-Arts au micro Europe 1 de Caroline Baudry. La mairie de Bordeaux a expliqué dans un communiqué qu'elle réaffirmait son attachement plein et entier à la culture et aux artistes. Ces affiches devraient être retirées mercredi, date de fin de la campagne.
Il est 5h06 sur Europe 1. Un groupe de 7 religieux catholiques a été enlevé hier en Haïti. Parmi eux, une religieuse et un prêtre français.
Oui, le kidnapping a eu lieu dans la matinée, mais on ne connaît pas encore les circonstances précises. Damien Mestre.
Les 7 religieux ont été capturés alors qu'ils se rendaient à l'installation d'un nouveau curé près de Port-au-Prince. Et parmi eux, une religieuse et un prêtre français, détaille la conférence des évêques d'Haïti. À ce stade, le contexte reste flou, mais la police haïtienne soupçonne un gang armé baptisé 400 Mawozo, gang très actif dans ce secteur près de la capitale. Cet enlèvement a d'ailleurs lieu dans un contexte particulier, celui de la recrudescence de ces bandes armées à Haïti. En mars dernier, un état d'urgence avait même été décrété pour restaurer l'autorité de l'État. Car ces gangs, qui contrôlent certaines parties du territoire, ont l'habitude de séquestrer des personnes en exigeant le versement de rançons, des rançons plus ou moins importantes. En échange de la libération de ces 7 religieux, les ravisseurs réclameraient là une somme de 1 million de dollars.
Les précisions de Damien Mestre. L'affaire avait fait scandale en 2012 à Marseille. Des policiers de la BAC Nord suspectés de vol de produits stupéfiants notamment.
Oui, leur procès s'ouvre aujourd'hui. Durant l'instruction, des écoutes téléphoniques ont été enregistrées et des micros placés dans les bureaux et les voitures de la BAC Nord. La police des polices avait fait des découvertes accablantes lors des perquisitions au domicile personnel et dans les locaux de la brigade, du cannabis ou encore de l'argent liquide. Stéphane Frangy.
Du haschich saisi puis redistribué à des informateurs, une pratique hors cadre mais courante à l'époque, plaide Alain Lotte, l'avocat d'un des prévenus.
L'indique, c'est aussi vieux que Vidocq hein, dans la police. Il ne faut pas pousser des cris d'orfraie, de ne pas vouloir regarder les choses, d'être des tartuffes. Non, on le savait, c'était toléré. La seule règle à l'époque de la BAC Nord, c'est la politique du chiffre. Il faut faire des affaires et tous les mois.
Son client a fait de la détention provisoire avant d'être révoqué de la police. Il finira par retrouver un emploi à la vidéosurveillance de la ville d'Aubagne. 9 ans après les faits, certaines accusations comme le motif de bande organisée ont été abandonnées et la défense souhaite aujourd'hui contre-attaquer face à un dossier qu'elle juge fragile.
On a le sentiment, si vous voulez, que c'est un dossier essentiellement politique, une guerre des chefs et que ce sont des hommes de terrain auxquels on présente l'addition et ça ne me paraît pas justifié.
Les 18 prévenus ont déjà fait l'objet de mesures disciplinaires en interne de la police nationale. 3 ont été révoqués, 1 rétrogradé. D'autres ont fait l'objet plus simplement de mesures de suspension ou de blâme. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Les fidèles du centre culturel musulman de Rennes, qui abrite une mosquée, ont découvert des tags peints sur les murs dans la nuit de samedi à dimanche. Des injures à caractère raciste qui mettent en émoi, bien sûr, toute la communauté musulmane. Et ce, à 2 jours du début du ramadan. Charles Guyard est sur place pour Europe 1.
Forcément, ça nous a choqués. J'étais vraiment indigné.
Des injures ouvertement racistes taguées sur le centre culturel musulman, mais aussi des croix chrétiennes, des appels aux croisades et à Charles Martel, autant de références qui porteraient la signature d'extrémistes catholiques. Une aberration pour ce fidèle, Nadir, alors que le lieu ciblé symbolise justement le brassage interreligieux.
Ici, on fait beaucoup d'échanges avec les communautés chrétiennes, les communautés hébraïques. C'est un endroit de paix.
Une paix bafouée donc, et l'enquête tentera de déterminer par qui, mais l'archevêque de Rennes, en venant sur place, a tenu à se démarquer de cette radicalité exprimée à coups de peinture, Pierre Dornelas.
Je ne sais pas si c'est une frange de l'Église ou c'est une frange de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens en faisant ça.
Quoi qu'il en soit, cet acte a été condamné au plus haut niveau de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se déplaçant à Rennes, accompagné de la maire de la ville, Nathalie Appéré.
Ces actes inadmissibles n'ont pas leur place dans la République.
Quant à Mohamed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman prône, lui, l'apaisement.
Ces actes de haine ne sont pas représentatifs du peuple français. J'appelle les musulmans de France à ne pas céder à des provocations d'où qu'elles viennent.
Un appel au calme alors que la mosquée de Nantes a, elle, été visée par un incendie volontaire pas plus tard que vendredi. Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
Il y a 60 ans, tout juste le 12 avril 1961, le premier homme partait dans l'espace, un certain Yuri Gagarin.
Oui, chaque année, l'anniversaire du vol est célébré avec une dévotion et une immense fierté partout en Russie, c'est bien ça, lors d'Autriche.
Oui, la base spatiale de Baïkonour est alors une ville secrète, construite à une vitesse record par l'URSS qui voulait devancer les États-Unis dans la conquête spatiale. Gagarine grimpe à l'intérieur de la fusée, dans sa combinaison orange. 2 minutes après le décollage, il annonce « Je vois la Terre, c'est magnifique ». Il passera 108 minutes dans l'espace pour un vol autour de la Terre. Et depuis, tous les gestes de Gagarine sont reproduits comme un rituel par les astronautes qui s'apprêtent à décoller depuis la base russe. Ils regardent le même film soviétique que Gagarine la veille du départ. Ils restent assis sur leur lit pendant 1 minute parce que, selon la tradition russe, rester debout porte malheur aux voyageurs. Et sur la route qui mène à la fusée, le bus s'arrête à l'endroit précis où Gagarine est descendu pour uriner. Rituel respecté par tous les astronautes aujourd'hui, sans exception, comme l'a fait Thomas Pesquet lors de sa première mission dans l'espace en 2016.
L'heure d'Autriche pour Europe 1.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 5h11. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une le foot. Et tout reste possible pour Lyon en championnat.
Oui, l'OL qui a fait comme ses concurrents en clôture de la 32e journée. Victoire 3-0 face à Angers avec un Depay retrouvé. Il a marqué 2 fois. Cette victoire était nécessaire pour espérer encore accrocher la Ligue des Champions. On écoute l'entraîneur Rudy Garcia.
On se devait et de retrouver la victoire en championnat et de rester collé aux 3 de devant qui avaient gagné. Donc c'est ce qu'on a su faire en marquant 3 buts par nos joueurs offensifs, en prenant pas aussi, donc ça c'est important. Un clean sheet, c'est une satisfaction aussi de l'animation défensive et de l'implication défensive de tous les joueurs. Donc voilà, une belle satisfaction, un match bien maîtrisé. Les joueurs ont bien mérité de se reposer et puis on préparera le déplacement à Nantes de la meilleure des manières.
Rudy Garcia avec Maxime Schoch, l'OL 4e de la Ligue 1 à 3 à 1 point du 3e Monaco qui a battu Dijon.
Et justement pour Dijon, les affaires se compliquent.
Dernier de la Ligue 1 avec ce triste record, 12 défaites d'affilée, c'est la pire série de l'élite dans une même saison à égalité avec Paris en 1934. Le coach de Dijon, David Linares, est revenu sur sa série de records.
Je ne pense pas que mes joueurs ou... Le groupe ou même le staff avait ce record en tête. Voilà, je pense que c'est le fait plutôt des journalistes à vouloir axer là-dessus. Nous, on est rentré sur le terrain avec l'envie d'en sortir la tête haute. Aujourd'hui, on est dans une spirale très négative au niveau de la confiance. Le doute s'est installé. Et c'est le mal qui touche l'équipe depuis pas mal de temps et ce soir encore, ça a été le cas.
David Linares avec Frédéric Elion pour Europe 1.
Le rugby français se porte bien sur le plan européen.
La Rochelle, le Stade Toulousain et Bordeaux qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Europe et le Bordelais Jefferson Poirot croit savoir pourquoi un tel succès.
C'est une bonne chose pour le rugby français. Je pense que les prestations de l'équipe de France n'y sont pas pour rien non plus. Je pense que les internationaux qui sont revenus du tournoi ont apporté énormément dans leur club. L'équipe de France n'y est pas pour rien sur le fait qu'il y ait 5 clubs en quart et 3 clubs en demi. Tant mieux pour nous, on montre qu'on est là tous. On se joue et honnêtement, à ce niveau de la compétition, peu importe qu'il y ait des Français, Irlandais, les Anglais sont pas là, donc c'est une bonne chose déjà. Ça leur fait un peu les pieds.
On en revient toujours à la même chose avec le rugby. Rendez-vous dans 3 semaines pour ce dernier carré aux 3/4 français.
Le chiffre du jour, c'est 12.
À l'inverse des 12 défaites de Dijon, là on parle tennis et de victoires, ainsi que de Nadal qui va tenter de gagner son 12e titre à Monte Carlo. Le tournoi qui a mal débuté hier pour les Français et notamment pour Benoît Paire qui nous dira son dépit dans 1 heure. Enfin en golf, la veste verte du Masters d'Augusta revient à Hideki Matsuyama à 29 ans. Il devient le premier japonais à remporter un grand chelem de golf.
Les sports avec Lénaïque Monnier, merci à tout à l'heure. Et voici votre pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 803 Cap Mix. Dans cette épreuve de steeplechase cross-country, une discipline toujours très spectaculaire de par son déroulement avec des obstacles variés plus ou moins difficiles à franchir, Cap Mix aura pour lui son expérience dans cette spécialité. Absent de la compétition pendant plus d'un an en raison de problèmes de jambes désormais résolus, il vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome de Fontainebleau et même s'il va découvrir cet après-midi celui de Compiègne, il s'annonce comme une certitude à l'arrivée. Notez bien, pour Compiègne, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 3, Cap Mix.
Thierry Léger, à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
5h15 sur Europe 1. C'est l'heure d'ouvrir les journaux avec toute l'équipe du 5-7. Omblin, qu'est-ce que vous avez lu ce matin?
Le portrait, ou plutôt la face sombre de celui qui est au centre du scandale des dîners clandestins. Christophe Leroy, le chef Christophe Leroy.
A tout de suite sur Europe 1 pour le pressing.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h16, 7 religieux catholiques dont 2 français ont été enlevés hier en Haïti près de la capitale Port-au-Prince. Ils se rendaient à l'installation d'un nouveau curé. La police soupçonne un gang armé. Les premiers autotests de dépistage du Covid sont disponibles à partir d'aujourd'hui dans les pharmacies françaises, même si les stocks arriveront progressivement. Et puis le triomphe hier soir de la cinéaste chinoise Chloé Zhao à la cérémonie des BAFTA, les Césars britanniques. Meilleur film, meilleure réalisation pour son long métrage Nomadland.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un petit coup d'œil aux unes de vos journaux et d'abord le coup d'accélérateur sur la vaccination qui fait les gros titres. La vaccination des moins de 55 ans à lire dans Ouest France, mais aussi dans le courrier Picard, le Dauphiné libéré, les dernières nouvelles d'Alsace. La mort du prince Philippe est en première page du Figaro. L'hommage unanime de la Grande-Bretagne à son prince et le visage de Joe Biden dans Libération qui vante son plan de relance colossal destiné aux plus défavorisés. Biden, de gauche et à droite, titre Libération. Dans Aujourd'hui en France, vous lirez une enquête sur le prix des pièces détachées automobiles, des prix qui flambent. Et la dépêche du midi pose le débat sur l'avion. Bouc émissaire de l'écologie, pour l'interrogation, se demande le journal toulousain, après le vote de la suppression des lignes aériennes pour les liaisons, lorsqu'une alternative en train existe en moins de 2h30. Enfin, les résidences secondaires dans Sud-Ouest, au Pays Basque, on manque de logements. Alors que le nombre de maisons de vacances et de logements vacants ne cesse de croître. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et Omblin, on s'arrête donc sur ce portrait du chef Christophe Leroy. On en découvre un peu plus sur le fameux chef des dîners clandestins.
Oui, c'est dans Libération. Deux ingrédients nécessaires pour être le traiteur de la jet set, le concept qu'il a inventé. Des plats ostentatoires avec de la truffe à toutes les sauces et un carnet d'adresses bien fourni. Cette vocation est née au début des années 90, lorsque Johnny Hallyday lui a confié le repas de son troisième mariage. Et ses photos, à côté du chanteur sont censées offrir à Christophe Leroy toute crédibilité et légitimité. Celui qui est au centre du scandale des dîners clandestins s'est formé avec certains des plus grands pourtant, comme Alain Ducasse. Un bon cuisinier, dit le chef étoilé Marc Véra dans le quotidien, mais attiré par les paillettes. Il traîne depuis 30 ans, je cite, une aura sulfureuse entre Saint-Tropez, Avoria et Marrakech. Il s'est avéré être un businessman plutôt qu'un cuisinier, un business franchement chancelant, à la tête d'un empire qui s'effondre. Il croule sous les impayés depuis 2012. Son ardoise afficherait la somme d'1 million d'euros. Il doit de l'argent à tout le monde, à ses fournisseurs, à ses salariés. Début 2017, ces deux établissements varois sont mis en liquidation judiciaire. Alors, il faisait profil bas depuis plusieurs années et revoilà Christophe Leroy qui apparaît en novembre 2020 avec une poularde au foie gras servie dans un lieu secret. Maintenant, il n'est plus très secret ce lieu, cet appartement parisien derrière le palace Georges V. Et Christophe Leroy est visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Christophe Leroy, traiteur de la jet set, sa vie de casserole dans Libération.
Et puis on apprend que sur les impayés, il y a un certain nombre de ces salariés qui n'ont jamais vu leur salaire. Qui attendent toujours. Alors, il dit que c'était un lieu privé, que c'est un appartement, donc c'est pas un restaurant.
Exactement, les voisins se disaient, il a beaucoup d'amis ce monsieur.
Ouais, effectivement, et des amis très connus visiblement. Et écoutez sa réponse sur la fameuse soirée du Palais Vivienne. Il était hier soir sur BFM TV, Christophe Leroy.
Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. Mais on en fait. Je peux comprendre le ressenti, le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business. C'est maladroit, le président a parlé la veille. Donc oui, aurait pas fallu le faire. Aurait fallu annuler cette conférence.
C'était le lendemain du reconfinement annoncé par Emmanuel Macron.
Cette conférence.
C'était donc une conférence. Ça n'était pas vraiment
il a peur de rien.
Un dîner, Christophe Leroy. Je pense qu'on va encore en entendre parler. On verra quels sont les si l'enquête évidemment se poursuit. S'il est poursuivi en justice. Autre sujet ce matin, et c'est décidément une année compliquée pour les agriculteurs. Le Figaro s'intéresse aux maraîchers. On parlait des conséquences du gel et on va continuer d'en parler ce matin. Il y a aussi le souci des saisonniers. Et ils sont importants, ils sont essentiels. Les agriculteurs des Bouches-du-Rhône doivent affréter des avions, spécialement depuis le Maghreb, pour trouver la main-d'œuvre qu'ils ne trouvent pas en France. Pas évident en ces temps de restrictions sanitaires, et c'est notamment le cas pour la récolte des fraises dans les serres, dans le Vaucluse par exemple. Les producteurs ont manqué de peu une saison blanche, faute de bras pour ramasser les fraises. Parce que depuis que la France a fermé ses frontières extérieures à l'Union européenne, il a fallu trouver des solutions pour faire venir les habitués. Parce qu'en fait, ils les connaissent très bien, c'est, ils viennent tous les ans. Ils viennent de Tunisie ou du Maroc, c'est saisonnier. Et donc, les agriculteurs ont obtenu déjà une dérogation pour leur permettre d'entrer en France. Et ensuite, ce sont les syndicats, les antennes locales de la FNSEA, par exemple, qui se sont improvisées agences de voyage pour réserver un par un des billets d'avion en provenance de Tunisie ou du Maroc, en affrétant des avions, des charters spéciaux, puisque les lignes régulières sont à l'arrêt. Les bus à l'arrivée, protocole sanitaire très strict, un test avant de partir, un test antigénique à l'atterrissage. Alors ça va être un surcoût pour les exploitations, hein, 400 euros en moyenne par travailleur, il a fallu tout payer. Mais pour 6 mois de travail, c'est largement supportable, disent ces agriculteurs, et surtout c'est indispensable pour assurer la cueillette, parce que les bras français ne se bousculent pas du tout, malgré les annonces postées sur Pôle emploi. L'année dernière, pendant le confinement, la question aussi s'était posée. Ils avaient besoin de bras, ils avaient posté des annonces. Finalement, ça a fait un flop. Il y a cette main-d'œuvre étrangère qui est essentielle pour la cueillette des fruits et légumes d'été qui commencent à arriver. Quand les maraîchers s'improvisent agents de voyage, c'est à lire dans le Figaro ce matin. Martin, on termine avec vous.
Oui, et direction le Brésil ce matin. Je vais vous parler de la main de Dieu. Alors, rien à voir avec le but de Maradona, hein, non, cette main de Dieu-là. C'est une trouvaille des infirmières brésiliennes pour réconforter les patients atteints du Covid. Alors, le Brésil est un des pays les plus durement frappés par la pandémie. Plus de 300 000 morts. Actuellement, c'est 4 000 morts par jour, rendez-vous compte. L'ancien président Lula a même parlé du plus gros génocide de l'histoire du pays. Et donc, face à cette situation catastrophique, les soignants font de leur mieux pour gérer l'afflux toujours plus important de patients.
Et donc cette main de Dieu, donc, c'est une idée géniale qu'a eue une infirmière.
Oui, tout à fait. Elle s'appelle Semei Arroyo Cunha. Elle travaille dans un hôpital de l'état de Sao Paulo et elle a rempli deux gants en latex d'eau tiède avec lesquels elle a enlacé la main d'un patient. Ça vous semble sûrement abstrait à expliquer comme ça, mais en fait, le latex tiède permet de recréer la sensation du contact humain. C'est une forme d'affection, de câlin, d'humanisation, comme si quelqu'un lui prenait la main. Voilà ce que dit l'infirmière pour expliquer son geste. Elle déplore l'absence de visite, c'est déchirant pour ces patients hospitalisés, intubés. S'ils n'ont pas de contact humain, ils deviennent vulnérables. La photo de cette main entourée par ces deux gants en latex a fait le tour du monde, elle est devenue la main de Dieu et le nouveau symbole du dévouement du personnel médical qui lutte depuis un an contre la pandémie. Un média indien a même mené l'enquête et découvert que cette technique est utilisée dans les hôpitaux brésiliens depuis l'année dernière. Sa véritable inventrice est une infirmière de Rio de Janeiro et selon elle, la main de Dieu a aussi et surtout une vertu médicale puisqu'elle améliore la circulation sanguine des patients.
C'est incroyable comme idée, deux gants remplis d'eau.
Oui, allez voir la photo sur internet, elle est assez dingue.
Et la vraie main du patient qui glissait dedans et qui a la sensation d'avoir un contact humain. Voilà, on en est
de
là.
La visite.
On en est là quand même. Voilà. Intéressant, c'est à lire sur slate.fr. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et on parlait des agriculteurs touchés par le gel. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne ce matin pour les doigts dans l'assiette avec notre viticulteur. Bonjour Philippe Cabrel.
Bonjour Sébastien.
Du côté d'Astafort. Ces derniers jours ont été éprouvants pour beaucoup de viticulteurs. Chez vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été touché par le gel?
Non, pas trop, effectivement. Moi, je suis dans une zone au sud du Lot-et-Garonne. On a été quand même assez préservés et assez chanceux par rapport à certains collègues là, du département qui sont plus sur la vallée du Lot et vallée de la Garonne. Qui ont été particulièrement touchés. Quoi.
Donc soulagement pour vous, j'imagine que vous avez surveillé le thermomètre et que vous continuez d'ailleurs à le surveiller parce que Laurent Cabrol nous dit que le froid revient cette semaine.
Oui, tout à fait. Ben là, on est toujours forcément un petit peu inquiet. Pourtant, on est quand même début avril. Les gelées sont presque un peu... pourraient être normales. Ce qui n'est pas normal, c'est que la végétation soit encore en avance, quoi.
Oui.
Et ce qui risque de devenir malheureusement une normalité, quoi.
En fait, ce qui pose le plus de problèmes, c'est pas tellement le froid qui fait aujourd'hui, c'est la chaleur qu'on a eue avant. Parce que tout
à fait. Ouais. Le problème, il est là. Bon, lors de ma dernière intervention, j'étais assez satisfait un peu des températures qu'il y a eu au mois de mars, où c'était assez classique. Je ne m'attendais pas à ce que la végétation nous échappe. Là, dans ces 10 derniers jours, on a eu quand même des températures après-midi de 23-24 degrés. Le problème, il est là, quoi. On a des températures du mois de mai, fin de mars, début avril.
Et la floraison avait commencé.
Ben, ça rend, oui, la vigne très vulnérable au risque de gel, quoi.
Et vous êtes en contact avec d'autres viticulteurs qui, eux, ont été plus affectés ?
J'ai appelé quelques collègues, là, notamment dans le Gers, le département voisin. Eux, ils sont vraiment touchés entre 70-80%. C'est un peu compliqué pour eux. Après, alors autant les arbres fruitiers, bon, on sait qu'eux, ils ont été... On connaît les dégâts de suite. Sur la vigne, c'est un peu différent parce que il faut attendre au moins 10-15 jours avant d'établir les chiffres parce que, si vous voulez, pour chaque bourgeon, il y a un contre-bourgeon. Alors, celui-ci, des fois, il sort de suite et bon, là, c'est cuit. Mais ce contre-bourgeon, des fois, il sort en décalé 15 jours, 3 semaines après. Donc, il peut être un plan B et un peu sauver un petit peu la récolte, quoi.
Donc on saura peut-être dans un deuxième temps si ça repart.
Voilà.
Si ça repart.
Voilà, il y a ce contre-bourgeon qui quand même globalement n'est pas toujours sorti et peut sauver un peu la récolte.
Ouais.
Mais bon, quand même. L'épisode de gel a été quand même assez rude. Quand même.
On a une pensée, bien sûr, ce matin pour tous les viticulteurs et au-delà, tous les agriculteurs qui ont été touchés. Et on reparlera de tout cela avec mon invité à 5h40, qui est le vice-président des jeunes agriculteurs, notamment des aides gouvernementales qui ont été promises aux sinistrés. Merci à vous, Philippe Cabrel. Courage, regardez bien le thermomètre et j'espère que ça va se réchauffer rapidement.
Merci.
Une belle journée à vous.
Au revoir.
Je domine à l'aise, j'écrase et j'oppresse, si loin de savoir tout ce que j'incarne. Voilà le concept, je veux que t'acceptes devant moi de baisser la tête et les armes. Je ne m'autorise que peu de confidence, mes émotions assourdies par le silence. Mon genre en médaille, drapé dans ma confiance, maintenant je me lance. Je me convainc, j'affirme en vain, sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. Les secousses passent, je ne peux les bannir. Moi je pousse, je pousse, je pousse mon cœur au pire. Droit comme un homme, l'âme au sommet, quand mon ego en fait des tonnes. Je me vois grand, me sens vivant, et je frissonne.
Camélia Jordana sur Europe 1 avec Le Monde en Main, un nouvel extrait de son quatrième album Facile Fragile qui est sorti en janvier dernier. Laurent Cabrol pour le temps de ce lundi matin avec un mercure qui redescend encore, hein, Laurent.
Oui, je vous le disais tout à l'heure, le froid est là, et c'est un froid beaucoup moins intense, entre moins 4 et plus 4 degrés, mais enfin, ça n'est pas très agréable. Dans la journée, j'en profite pour vous donner les températures, entre 9 et 15 degrés au meilleur de l'après-midi. L'amplitude est quand même assez grande, hein, mais ce ne sont pas quand même des températures tout à fait de saison. En ce qui concerne maintenant la couleur du ciel, eh bien, pas mal de nuages sur les régions du sud, dans le sud-ouest, les Cévennes, la vallée du Rhône, la Franche-Comté. Ça ira un petit peu mieux cet après-midi. Des averses de neige sur les Alpes, à partir de 700 mètres seulement, ce matin. Et puis quelques ondées apparaîtront au fil des heures en deuxième partie de journée sur la Manche, peut-être même sur la région parisienne, sur la Champagne et les Ardennes, mais enfin ce sont des ondées extrêmement discrètes.
Merci à vous Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et je salue Marion Calé. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite votre journal, il est 5h30.
On a déjà 60 personnes. On essaie de laisser de la place pour ceux qui voudraient venir à l'improviste, mais dans la seconde où vous rouvrez les pubs, ils sont remplis.
L'impatience des Britanniques, des réservations en masse dans les pubs et les restaurants, réouverture partielle aujourd'hui. Dans un premier temps, le service se fera uniquement à l'extérieur. Des soignants qui abandonnent une partie de leur rémunération au profit d'étudiants. Reportage à Nancy où des jeunes fragilisés par la crise viennent aider les équipes du centre de vaccination contre rémunération. Dans ce journal aussi, des comptes courants bien garnis. Et le PSG à la veille de son quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.
Après le journal, comment sauver les arboriculteurs, les viticulteurs qui ont parfois perdu 100% de leur récolte à cause du gel et le froid qui revient encore cette semaine. Mon invité dans 10 minutes sera Guillaume Cabot, le vice-président de la Fédération des jeunes agriculteurs. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Confinés depuis le 26 décembre, les Britanniques s'apprêtent à retrouver un peu de leurs habitudes. Ce lundi, certains commerces vont pouvoir rouvrir outre-Manche, coiffeurs, salles de gym, mais aussi et surtout les restaurants et les pubs. Et
après la mort du prince Philippe, le Premier ministre Boris Johnson a finalement renoncé à aller prendre une pinte en terrasse ce lundi. Un deuil qui n'empêchera pas en revanche de nombreux Britanniques de se retrouver pour trinquer. Reportage à Londres de l'envoyé spécial d'Europe 1, Théo Manval.
Les tables et les chaises sont prêtes à être dressées sur le trottoir.
Excited.
Et Jim n'a qu'une hâte, retrouver les clients de son pub, même dans ce contexte particulier.
Oui, les funérailles de samedi, ça change l'ambiance. C'est plus mélancolique, mais on a hâte quand même. On est fermé depuis Noël, on a encore les décorations au mur. Alors même si on ne peut servir que sur le trottoir, c'est déjà pas mal.
Le service ne se fera en effet que dehors et uniquement sur des tables pour limiter chaque groupe à 6 personnes. Le restaurant voisin croule déjà sous les réservations. Jim aussi.
On a déjà 60 personnes. On essaie de laisser de la place pour ceux qui voudraient venir à l'improviste, mais dans la seconde où vous rouvrez les pubs, ils sont remplis. Aujourd'hui, ça sera la folie des réservations dès midi.
C'est notamment le cas pour Eric et Kesha.
J'ai aussi réservé tous les week-ends.
Ça va être un soulagement national.
C'est un peu dommage que ça tombe au même moment, mais même en deuil national, on peut se dire que Philippe a eu une belle vie et en boire une à sa mémoire.
Mais après 4 mois de fermeture, attention, prévient Jim. Les Londoniens ont perdu l'habitude et risquent de moins tenir l'alcool. Londres, Théo Manval, Europe 1.
On comprend qu'ils se précipitent.
Ah oui, ça, clairement. En France, à partir d'aujourd'hui, mise en vente des autotests Covid dans environ un quart des pharmacies et ouverture de la campagne de vaccination aux plus de 55 ans avec l'AstraZeneca et bientôt le Johnson & Johnson. Une campagne à laquelle des étudiants précaires prennent part près de Nancy, à Jarville-la-Malgrange, contre 80 euros. Ils épaulent les personnels de santé. Reportage d'Arthur Imbaché pour Europe 1.
Allô, oui.
Oui, bonjour Monsieur Girard. C'est le centre de vaccination.
Sa mission du moment, faire le tri dans la liste d'attente du centre de vaccination. Jean-Baptiste, 24 ans, école d'ingénieur, étudiant, sans job étudiant à cause de la crise.
Donc du coup, ça c'est une des missions. Je donne un coup de main, par exemple, au docteur aussi qui a besoin de coup de main. En fait, je suis vraiment polyvalent, quoi. Je fais un peu tout.
Vous vaccinez pas les gens, quand même?
Ah non, ça, je sais pas y faire, en tout cas. Non, ça peut m'entraver, ça.
Dans une situation normale, vous auriez un job étudiant, c'est ça?
Un McDo, mais bon, comme tout est fermé en ce moment, il n'y a pas de boulot. J'ai quand même besoin d'argent, quoi, en ce moment. Parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je me déplace, il faut que je paye aussi un peu à manger.
Deuxième dose pour monsieur.
L'infirmier Olivier Babel dirige le centre de vaccination de Jarville.
On s'est dit, voilà, comment on peut faire? On a appelé le CROUS, et par l'intermédiaire des œuvres sociales du CROUS, on leur a expliqué notre projet, à savoir trouver des étudiants désireux de servir la cause, et puis qui auraient le plus besoin d'un petit coup de main financier. Mmh. Ici, tous les professionnels de santé ont accepté de laisser une partie de leur rémunération pour alimenter cette caisse. C'est de la débrouille.
En échange d'une journée, ici, les étudiants touchent 80 euros en chèque service pour des dépenses ciblées, loyer, transport, vêtements, alimentation. Nancy, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Des soirées clandestines et plusieurs gardes à vue ce week-end. En Côte d'Or, l'organisateur présumé d'une fête dans les bois a été arrêté. Près de Toulouse, deux personnes entendues. Elles sont soupçonnées d'avoir transformé un gîte en discothèque. 30 euros l'entrée, 20 euros le parking.
On l'a appris cette nuit, l'enlèvement de deux religieux catholiques français en Haïti.
Au total, 7 personnes kidnappées. La police soupçonne un gang armé. Une rançon $1 million a déjà été réclamée.
Il est 5h35 sur Europe 1. Ils ont jusqu'à ce midi pour donner leur avis. Les maires de France, sollicités par l'exécutif, devront dire si oui ou non ils veulent que les élections régionales soient maintenues en juin prochain.
Consultation lancée vendredi soir et qui illustre, Louis Dragnel, la difficulté du chef de l'État à trancher dans ce dossier.
Oui, le président a changé plusieurs fois de position sur le sujet. Dans un premier temps, il était favorable à un report en octobre pour des raisons sanitaires, mais aussi avec une arrière-pensée politique, convaincu que les trois présidents de région, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, s'affronteraient très vite, juste après les régionales, en vue de la présidentielle, ce qui aurait pu lui être profitable. Mais à Matignon, Jean Castex, attaché au respect du calendrier électoral, plaide pour le maintien, comme l'ensemble des partis politiques d'ailleurs. Emmanuel Macron se rallie alors à cette position en fin de semaine dernière. Ensuite, pour être sûr de son choix, le président demande à plusieurs ministres et cadres de la majorité de sonder des maires La République En Marche. Surprise, près de 80% d'entre eux plaide pour un report du scrutin, ce qui amène le président à lancer dans la précipitation une grande consultation des maires par mail via les préfets pendant le week-end avec une demande de retour avant ce soir. Rien ne dit pour l'instant qu'Emmanuel Macron suivra leur avis, mais il serait politiquement très compliqué de ne pas le faire dans un contexte de crise sanitaire où les élus locaux sont très remontés contre l'exécutif.
Dès hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a prévenu, il saisira le Conseil constitutionnel si le gouvernement décidait de reporter les élections. C'est une conséquence de la crise sanitaire, conséquence inattendue. Jamais nos comptes courants n'ont été aussi remplis.
Oui, une façon de s'assurer une épargne immédiatement disponible plutôt que de la placer à faible rendement. Ce phénomène, Emmanuel Dutheil l'a constaté auprès de plusieurs professionnels du secteur bancaire.
C'est historique pour les particuliers qui ont eu moins d'occasions de dépenses et puis qui aussi ont une épargne de précaution qui a augmenté pendant cette période.
Marguerite Bérard est la patronne de la banque de détail de BNP Paribas en France. Elle, comme les autres, le constate, nos comptes courants n'ont jamais été aussi remplis qu'en ce moment. À fin décembre, il y avait 469 milliards d'euros sur nos comptes courants. C'est 15% de plus qu'un an plus tôt. Alors l'une des raisons, c'est que certains ont pu mettre de côté les dépenses de loisirs, comme celles des restaurants que l'on ne peut pas faire en ce moment. D'autres ont peur de l'avenir et gardent donc, y compris sur leur compte courant, un peu d'argent. Et ça s'explique par le fait que le livret A et consorts ne rapporte plus beaucoup. Alors on place moins notre argent, selon Philippe Crevel, qui dirige le cercle de l'épargne.
À quoi bon placer son argent s'il rapporte peu? Et donc on le laisse dormir à défaut sur son compte courant, parce qu'on considère que ça n'offre pas beaucoup d'avantages d'aller le mettre ailleurs.
Une manne qui intéresse les pouvoirs publics, Bercy cherche des mesures pour nous inciter à dépenser cet argent. Le but, doper un peu la reprise après la crise du Covid.
Emmanuel Dutheil.
Le sport et une victoire 4-1 sur la pelouse de Strasbourg ce week-end. Malgré tout, les supporters parisiens retiennent leur souffle avant le quart de finale. Retour de la Ligue des Champions, c'est évidemment du foot contre le Bayern Munich. Ce sera demain.
Oui, avec une incertitude toujours concernant le capitaine parisien pour Europe 1, Julien Froment.
Oui, le défenseur Marquinhos et le Paris Saint-Germain se sont lancés dans une véritable course contre la montre. Objectif, tout faire pour que le Brésilien soit sur la pelouse demain soir. Mais l'espoir est infime car le capitaine du PSG souffre d'une lésion à l'adducteur qui devrait l'éloigner en théorie des terrains 3 semaines. Un ultime examen est programmé aujourd'hui, mais Giroud, consultant pour Europe 1, ne croit pas au miracle.
J'ai regardé l'endroit où il se touchait avec les gros plans. C'est pas seulement l'adducteur, c'est l'attache de l'adducteur. Et ça, c'est beaucoup plus lent que quand on est dans le corps du muscle. Donc moi, je crois qu'il sera pas là. Maintenant, s'il est là, je vais être content. Hein. C'est leur meilleur joueur, le plus régulier en dehors du gardien de but.
Justement, Keylor Navas, sorti à la pause à Strasbourg par précaution, devrait pouvoir tenir sa place demain soir dans les buts. Autre bonne nouvelle pour Paris, les tests Covid négatifs des Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Ils postulent donc tous les deux pour le match. Ajoutez à cela la présence de l'Argentin Leandro Paredes, excellent ce week-end à Strasbourg. Et le Paris Saint-Germain peut aborder avec sérénité l'immense défi qui l'attend contre le Bayern.
Voilà, ce sera demain et on suivra ça évidemment en direct sur Europe 1. Enfin, avant les Oscars, dans 2 semaines, déjà 2 récompenses au Royaume-Uni pour 2 Phaser, adaptation de la pièce de Florian Zeller, passée à la réalisation. Ce film obtient au BAFTA le prix du meilleur scénario adapté et son acteur principal, Anthony Hopkins, se voit sacré meilleur acteur.
Oui, triomphe pour le film Nomadland, hein, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Frances McDormand. Voilà, peut-être une annonce des Oscars. Qui arrive à la fin du mois d'avril. C'était le journal de Marion Calais. Il est 6h20. Et on trouve Thierry Léger pour les courses.
Direction Compiègne pour ce quintet qui va se courir sur le parcours de Steep le long de 3800 mètres. Et parmi les 16 partants, j'ai placé en tête de mon pronostic Gloris, le numéro 3, tardif mais visiblement doué, et sur lequel son entraîneur François Nicole ne tarit pas d'éloges. On lui opposera son compagnon d'entraînement Géna Desmottes, le numéro 4, facile lauréat en dernier lieu le 9 mars sur cette piste de Compiègne. Et le style de cette victoire me laisse à penser qu'il peut être considéré ici comme à coup sûr absolue dans les 5 premiers. Ensuite, je vous propose Yellowfield, le numéro 11, dont la course de rentrée après 5 mois d'absence sur ce parcours et qui s'est soldée par une excellente deuxième place, laisse augurer une très grande performance avec Peggy, le numéro 6, gagnante ce jour-là avec la manière, mais qui devra cette fois porter une surcharge de 3 kilos. Enfin, les numéros 1 Myway, 5 Ding Dang Dong, 16 Drop Flight et 10 Fusion de Bone compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 4, 11, 6, As, 5, 16 et 10.
C'est noté Thierry Léger et tous vos pronostics sont sur Europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
5h41, c'est donc un épisode extrêmement violent et brutal qu'ont vécu de très nombreux agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs. Les épisodes de gel de la semaine dernière ont déjà des conséquences colossales. Et le pire, c'est que Laurent Cabrol nous le disait, les gelées sont de retour en ce début de semaine. Bonjour Guillaume Cabot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président de la Fédération des jeunes agriculteurs. Le gouvernement promet des enveloppes exceptionnelles. Emmanuel Macron a même tweeté tout son soutien aux agriculteurs. Est-ce que ce qui est annoncé va suffire à maintenir à flot tous les agriculteurs touchés ?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut établir un bilan des impacts du gel qu'il y a eu la semaine dernière et des prochaines gelées qui vont avoir lieu cette semaine. L'idée, c'est de vraiment avoir un diagnostic global de l'ensemble des territoires qui ont été touchés, justement pour pouvoir mettre en œuvre donc le système de calamité agricole qui puisse coller au plus juste pour compenser donc les pertes économiques des exploitations agricoles. Ça, c'est la première chose. Et puis après, pour mettre en accord l'ensemble des autres aides exceptionnelles que l'État nous promet, l'idée c'est qu'on travaille conjointement donc avec les services du ministère de l'Agriculture et donc tous les représentants agricoles pour qu'on ait une formule qui soit adaptable à tout le monde et que tout le monde puisse avoir un soutien économique pour ce dramatique épisode.
Très concrètement, certains de ces agriculteurs n'auront aucun revenu cette année s'il n'y a pas d'aide qui leur est versée.
Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des exploitations aujourd'hui qui sont gelées à 100%, hein, ne serait-ce que sur l'arboriculture où c'est vraiment des productions qui sont spécifiques attitrées à un territoire. Et vu l'épisode de gel d'ampleur, les moyens de lutte justement pour préserver donc la floraison de tous ces arbres fait qu'ont été insuffisants face à cet épisode. Et donc on va se retrouver donc avec des productions qui seront vraiment vraiment impactées, donc voire nulles sur certaines exploitations agricoles. Donc
là on parle quoi des abricots, des cerises par exemple.
Abricots, cerises, pêchers, pommiers. On parle aussi de cultures de betteraves. Enfin c'est l'ensemble du territoire français qui est touché. On parle aussi de la vigne. Nous notre rôle au niveau syndicat ça va être de coordonner l'ensemble de toutes ces mesures pour qu'on puisse avoir un accompagnement économique au plus juste sur ces exploitations agricoles.
On a vu des agriculteurs la semaine dernière tenter de sauver ce qui pouvait l'être en allumant des feux, en utilisant plusieurs stratagèmes. Il faut tout recommencer cette semaine avec le retour de ces gelées.
Il va falloir recommencer, bien sûr, pour préserver les cultures, oui, que les agriculteurs ont réussi à protéger la semaine dernière. Les cultures qui devront être reprotégées cette semaine, donc c'est celles qui ont été intactes. Donc c'est celles qui vont rebénéficier voilà, de brûlot, d'arrosage, justement, pour préserver cette production.
Vous craignez que ce qui reste soit fortement impacté, là, ces prochains matins ?
On va voir suivant donc ce que Météo Ciel va nous annoncer. Il va falloir que les agriculteurs soient justement efficaces pour préserver le reste des productions qui sont intactes. Après, je pense qu'ils pourront bénéficier du soutien de leurs proches pour les accompagner à mettre en place tous ces dispositifs. Donc ça, je pense que ça a été rodé la semaine dernière, ce sera rodé la prochaine semaine. Ce sont des exercices qui sont vachement épuisants pour les agriculteurs hein, parce qu'il faut veiller la nuit, c'est très tard et puis c'est très tôt le matin. Et pour des résultats qui sont incertains, ça c'est sûr.
Il y a un aspect qui apparaît, c'est que la plupart des agriculteurs ne sont pas assurés. À peine 3 ou 4% des surfaces arboricoles sont couvertes pour risque climatique. 30% des surfaces viticoles. Pourquoi si peu d'agriculteurs souscrivent une assurance ?
Aujourd'hui, les exploitations ne font pas le choix de s'assurer parce que ça a un coût hein, économique sur les exploitations agricoles et in fine, dans la valorisation du fruit, ça ne pourrait pas être pris en compte quoi pour être compétitif. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font le choix de ne pas s'assurer. Et puis, lorsqu'il arrive des épisodes catastrophiques comme on le connaît, malheureusement, c'est compliqué.
Pour vous, c'est un sujet avec la multiplication de ces incidents. Est-ce qu'il faut réussir à inciter de plus en plus d'agriculteurs à souscrire des assurances, inciter les assureurs aussi peut-être à faire un effort pour que tout le monde puisse s'assurer ?
Il y a quelque chose à faire. Ça fait depuis des années qu'on est autour de la gestion des risques sur les exploitations agricoles, que ce soit sur le risque sécheresse, le risque grêle, le risque gelée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver le moyen idéal justement pour que chaque exploitation puisse se retrouver pour justement éviter toutes ces pertes économiques que l'on peut subir. Alors, il va falloir concrètement qu'on se remette à travailler, hein, donc la profession agricole, le ministère, tous les services, pour qu'on arrive peut-être à trouver donc la solution idéale. C'est un dispositif qui est coûteux, qui demandera de l'investissement de la part des agriculteurs, mais aussi de la part de l'État, justement pour qu'on puisse mettre en œuvre tous ces dispositifs, donc que ce soit un dispositif assurantiel, mais aussi des dispositifs sur le terrain. Je pense à l'irrigation pour protéger certains vignobles ou protéger certaines exploitations arboricoles, des dispositifs de voilage. Il y a plein d'autres choses à mettre en œuvre. Donc il y a des dispositifs techniques, des dispositifs économiques et financiers.
Dernière question, Guillaume Cabot, la conséquence de tous ces événements climatiques, on va la voir cet été sur les marchés. Il n'y aura pas de fruits français ou bien très chers.
Alors, il y aura donc une conséquence sur donc la production de fruits et ce que les Français vont trouver sur les étals. Donc il y aura un impact clairement sur le prix, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, il est encore trop tôt pour évaluer tout le préjudice subi par tous les agriculteurs. J'espère qu'on arrivera à trouver, à pouvoir sauver donc certaines cultures et que certains agriculteurs pourront revaloriser, même si ce n'est que 25 à 30% de leur production, mais qu'on puisse retrouver ces produits français sur les étals parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, un marché qui peut être perdu est souvent pris par un marché de l'import. Donc, ce serait compliqué pour l'année encore suivante pour que les arboriculteurs et puis tous les agriculteurs puissent reprendre leur place initiale avec les produits français sur les étals.
Guillaume Cabot, vice-président de la Fédération des jeunes agriculteurs, merci beaucoup et bon courage pour la semaine
merci.
À venir à tous ceux qui nous écoutent et qui sont sur le front de ces gelées qui malheureusement continuent. Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Europe 1.
5h47 sur Europe 1, nous parcourons la France à la recherche des initiatives positives. C'est la France Bouge à suivre avec vous, les Nike Monnier. Où allons-nous ?
On va loin, on va très loin, on part à Tahiti ce matin. Ah. On va apprendre à utiliser la bourre de coco. Ce sont ces poils qui entourent la noix et qui sont très précieux.
Direction Tahiti, je viens avec vous. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h49, le ministre de l'Intérieur exprime son dégoût après la découverte de tags anti-musulmans sur un lieu de prière à Rennes. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier après-midi. Deux nouveautés aujourd'hui dans la lutte contre le Covid. La vaccination désormais ouverte aux plus de 55 ans et les autotests arrivent à partir d'aujourd'hui en pharmacie. Et puis une religieuse et un prêtre français ont été enlevés en Haïti aux côtés de 5 autres religieux catholiques. Il pourrait s'agir d'un enlèvement crapuleux. $1 million de rançon a déjà été réclamé.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est l'heure de la France Bouge avec vous, Lénaïque Monnier, ces initiatives que l'on met en lumière partout en France et jusque dans les territoires d'outre-mer, bien sûr, puisque nous allons en Polynésie ce matin.
Est-ce que vous y êtes loin de vos 10 km autorisés ? On va rêver un petit peu ce matin. Tahiti, ses lagons translucides, sa barrière de corail, sa végétation luxuriante et donc ses cocotiers. Nous allons à Mataiea, c'est l'une des plus petites communes de Tahiti. Et c'est là que vit Marama Teavai. Il a eu l'idée d'exploiter cette bourre de coco. Si vous ne voyez pas très bien de quoi il s'agit, c'est tout simplement ces espèces de poils qu'on trouve tout autour de la noix.
D'accord.
Et ça, c'est de la fibre, sauf qu'on ne peut pas en faire de textile ni de meubles. Et d'ailleurs, en règle générale, les agriculteurs la jettent ou la brûlent. Mais en voyant ces quantités non exploitées, eh bien Marama s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Et c'est là qu'il a pensé tout simplement à louer un broyeur. Et l'histoire commence à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'il a découvert ?
Alors, en broyant et en tamisant, on obtient un fertilisateur naturel, un produit qui est utilisé dans la culture hors sol. On peut la mélanger également à d'autres types de tourbes. Ça allège les sols trop lourds, ça maintient une bonne porosité. Il y a une très grosse capacité, évidemment, de rétention d'eau.
Trouver un marché ?
Oui, absolument. À Tahiti, tout d'abord, Marama Teavai vend pratiquement une centaine de sacs de bourre de coco par semaine. Il assure lui-même la livraison sur toute l'île. Il a même créé un emploi dernièrement. Il compte développer son activité en démarchant des entreprises de cosmétologie et de traitement de l'eau. Et il va se tourner vers l'export. D'ailleurs, il a un petit peu commencé avec une tournée très difficile dans les Tuamotu, ces dizaines de petites îles de l'archipel polynésien.
Voilà, on a envie de l'accompagner.
Ah bon, on a très envie d'aller faire de la bourre de coco, oui, c'est clair.
La bourre de coco, donc cette fibre autour de la noix de coco qui trouve de nouveaux usages. Merci à vous, les Nike Monnier, la France bouge. Et nous explorons à présent les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Oui, et ce matin, je vais vous parler de la nouvelle campagne de communication de la ville de Bordeaux. Une campagne qui partait d'une bonne intention, hein, pousser les Bordelais à échanger sur la politique culturelle de la ville et à se l'approprier. Sauf que deux affiches de cette campagne ont déclenché les foudres des internautes. Deux affiches en forme de questions qui s'appuient sur des clichés liés au monde de la culture. Alors je vous les donne, hein. Artiste, c'est vraiment un métier ? Et la culture, ça coûte trop cher, non ?
Ah oui.
Choquante, odieuse, ridicule. Les critiques pleuvent, hein, venues surtout du monde culturel qui tire la langue depuis le début de la pandémie, entre salles de spectacle fermées et festivals annulés. Blaise Mercier, par exemple, parle d'accident industriel. Le ténor Christophe Colle détourne lui la question, hein. Les élus, ça coûte pas trop cher. Tout comme Vincent Bengold, hein, qui se demande aussi si communicant, ce n'est pas un métier.
Alors, bon, ils l'ont pris au premier degré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ? Que voulait faire la ville de Bordeaux ? C'était une manière de provoquer ?
Alors, elle s'est expliquée. Hein. Elle explique qu'elle avait deux objectifs avec cette campagne. Premièrement, interpeller les Bordelais et les inciter à participer. Pour le premier objectif, hein, interpeller, c'est réussi. Mais pas dans le bon sens, admettons, dans les équipes du maire de Bordeaux. Ouais. Il faut comprendre qu'on parle à tout le monde et pas seulement aux artistes. Se justifie péniblement la directrice de la communication de la mairie. Avant d'entamer un début de mea culpa, l'intention n'était sûrement pas de blesser un milieu fragilisé par la crise. On regrette le résultat. Pas tant que ça, visiblement, alors que le milieu artistique réclamait le retrait de ses affiches. Elles resteront en place jusqu'à mercredi, date de la fin de la campagne.
Oui, bon, elles vont finir par disparaître,
oui,
du coup.
48 heures.
Effectivement, je ne sais pas si c'était la meilleure manière de poser la question. Est-ce que les questions incitent à trouver des réponses, pas forcément une
un
question
peu
polémique,
provoque, peut-être.
amène des réponses polémiques ? Je ne sais pas, en tout cas, effectivement. Ça a fait beaucoup parler. On entendait tout à l'heure une réaction d'un artiste tout à l'heure dans le journal de 5 heures. Martin Lange, merci à vous. 5h53. L'histoire du jour dans La Traconte se tient en 2014 à Saint-Pétersbourg. Nous sommes en Russie. La police enquête depuis plus d'un an sur la disparition d'un riche industriel français, Christophe Sion. Eh bien, c'est son épouse, Dina Sisoyeva, qui va être arrêtée. On de La Traconte, à retrouver bien sûr à 14h sur Europe 1, mais dès maintenant en podcast sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des solutions, chaque matin avec vous, des initiatives, des solutions qui fonctionnent, qui marchent pour améliorer notre environnement. Ce matin, vous vouliez nous parler des fermes urbaines et d'une initiative en particulier pendant ce confinement.
Oui, c'est une initiative menée par trois associations d'alimentation durable, la SOGE, Linky et Écotable. Tous les étudiants d'Île-de-France pourront mettre les mains dans la terre d'une douzaine de fermes urbaines de la région. Au programme, du semis, du maraîchage, de la construction de poulaillers, des cours sur la compréhension des cycles biologiques et surtout de la sociabilité. Ces associations cherchent à sortir les étudiants de leur isolement pandémique pour canaliser leur énergie et leur soif du monde d'après. L'idée est de transmettre les connaissances de l'agriculture durable en ville, de créer une démarche solidaire qui va nourrir l'aide alimentaire des plus démunis et pourquoi pas recruter des bénévoles.
Ouais, et puis Fanny, on sait combien les étudiants ont besoin d'un retour à une vie sociale et là ça se conjugue avec un engagement écologique.
Exactement. Les organisations essaient de répondre à un triptyque de retour à soi, de retour à l'autre et de retour à la nature pour dépasser la paralysie que crée la pandémie. Retour à soi parce que les étudiants ont été déconnectés de leurs aspirations dans une société qui peine à leur offrir des perspectives. Retour à l'autre parce que les cours en distanciel et la difficulté d'organiser des rassemblements pèsent sérieusement sur la sociabilité et le mental. Et retour à la nature parce que c'est un besoin impérieux pour nous tous.
Alors ça nous permet ce matin, Fanny, de s'arrêter sur ces fermes urbaines. Elles sont nombreuses à travers la France ?
Elles foisonnent. On en retrouve à plus ou moins grande échelle, à peu près partout, avec des objectifs tantôt commerciaux, tantôt sociaux. L'Agence nationale de la rénovation urbaine a d'ailleurs lancé en 2020 un appel à projets de quartiers fertiles et a retenu 27 projets de fermes urbaines un peu partout sur le territoire dont elle financera les applications. Ces financements publics sont indispensables car les associations du type ferme urbaine ou aide alimentaire dépendent énormément du bénévolat, ce qui fragilise leur stabilité. Un aléa extérieur, comme une crise économique ou une pandémie, peuvent vite atrophier les soutiens sur lesquels elles peuvent compter. Et si le gouvernement veut se reposer sur les associations et les projets locaux pour appliquer la transition écologique, il faut permettre aux citoyens de donner du temps à ces projets. Or, le temps, c'est de l'argent.
Fanny Agostini, merci. Ces fermes urbaines donc, et cette initiative pour les étudiants qui commence le 15 avril et qui se tiendra jusqu'au 15 mai. À demain.
Europe Matin.
matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous sur Europe 1 si vous nous rejoignez au réveil. C'est lundi, lundi 12 avril. Courage, il est presque 6h. Et souvenez-vous, tiens, de ce débat est né sur Europe 1 avec ce coup de gueule. C'était il y a une dizaine de jours, tout début avril. L'épidémiologiste Martin Blachier face à Sonia Mabrouk et son coup de gueule sur les autotests qui manquaient toujours en France contre le Covid.
Aujourd'hui, on a un ministre de la Santé qui, en France, bloque. Il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr. Il a clairement donné sa position, donc on sait qu'il bloque aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, ça y est, ces autotests arrivent en pharmacie. Un coton-tige à s'insérer soi-même dans la narine. Est-ce si facile à pratiquer? Est-ce fiable en termes de résultats? Et va-t-on trouver ces autotests partout? À quel prix? Les réponses tout à l'heure du président de l'Union des pharmaciens, Gilles Bonnefond, qui sera mon invité à 6h40. Tous vos rendez-vous habituels, bien sûr, jusqu'à 7h. On retournera en Angleterre dans notre revue de presse internationale pour suivre les suites des hommages au prince Philippe. Et puis, dans la partition, là, on va revenir dans les années 60 sur Europe numéro 1.
La nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde.
La voix de Johnny pour Retiens la nuit. Il représentait la jeunesse des années 60. Ils étaient les héros du magazine Salut les copains. 46 artistes réunis le 12 avril 66 sur une photo signée Jean-Marie Perrier. On l'appelle la photo du siècle. Et Omblin Roche nous en raconte la coulisse tout à l'heure à 6h20 dans la partition. Laurent Cabrol fredonne Johnny.
Retiens la nuit. Oui, je crois que c'était avec Catherine Deneuve, il me semble. Non, oui, il me semble bien. Moins 5 à Charleville-Mézières. Ah.
Ça réchauffe.
C'est moins drôle. Vous avez raison, Sébastien. Je crois qu'il faut être optimiste. Il faut dire que les températures sont froides, qu'elles resteront froides en ce début de semaine surtout, mais que nous aurons des températures un petit peu moins fortes que ces temps derniers. Bon, vous allez me dire, ça n'empêche pas quand même le gel si elles sont trop prolongées. Mais il y a une amplitude énorme entre le matin et l'après-midi. Vous avez là, en ce moment, par exemple, entre moins 5 et plus 2 degrés, et l'après-midi entre 8 et 15 degrés. Vous voyez que c'est vraiment une amplitude énorme parce que nous sommes à une période de l'année où le soleil donne quand même ses rayons et nous en fait profiter. Alors un petit peu de pluie ce matin sur le Rhône et sur l'Ain. Nous avons à Grenoble, Annecy, à Chambéry, à Gap, Belfort, Strasbourg, Cavalaire, Cannes, sur tout le flanc Est, des petites pluies ici ou là, parfois même quelques flocons de neige, notamment sur le territoire de Belfort. Et puis les pluies sur le flanc est vont s'accalmer, dans le courant de la journée, Sur le nord, Picardie, Champagne-Ardenne, Normandie, Lorraine, région parisienne, des averses dans l'après-midi. Si vous habitez des régions comme la Bretagne, le Poitou-Charente, le Limousin, le Berry, la Bourgogne, l'Alsace et la Franche-Comté, ce sera sec. Dans le sud-ouest, l'Auvergne, les Cévennes, amélioration au fil des heures. Il y a un petit peu le temps, c'est très nuancé aujourd'hui. Sur le bassin méditerranéen, vent de nord, Mistral et Tramontane, ils sont là.
Très bien, c'est noté. Merci Laurent Cabrol. On vous retrouve bien sûr juste avant 6h30. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.